VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Nouakchott, 18h à Libreville, bienvenue à notre journal. Élections législatives en RCA, 46 députés ont été élus dès le premier tour, 94 sièges sont en ballottage et leurs occupants seront élus au second tour du scrutin qui aura lieu à une date ultérieure. C'est ce qui ressort des déclarations de l'ANE, l'Autorité nationale des élections. Élection au Tchad maintenant. Le Conseil constitutionnel a finalement publié la liste définitive des 14 candidats au scrutin présidentiel du 10 avril prochain. Le président Idriss Déby Itno, qui brigue son cinquième quinquennat, aura notamment comme adversaire le leader de l'opposition Saleh Kebzabo, l'ancien Premier ministre Jim Ranga d'Adnadji et le député de l'opposition Gali Gata Ngote. Entre autres, l'opposant historique Yoronga Ngaleji fait partie de la dizaine de candidats écartés. Son emblème ferait problème. Pour éclaircissement, Timothée Nolgamay a joint le professeur Ahmad Mahamat Hassan, constitutionnaliste et enseignant de droit à l'université de N'Djamena.
La question de l'emblème n'est pas une question pour la validation des candidatures. C'est une question simplement d'interdiction. Et l'interdiction est sanctionnée par les dispositions de l'article 13 du Code électoral qui dit que si le candidat utilise des emblèmes qui font la confusion et autres, il sera amendé à 60 000 francs de francs CFA par affiche ou par pancarte. Et il sera aussi contraint par une décision de la CENI de retirer les affiches qui font la confusion avec le tricolore. En principe, c'est quand on est déjà candidat, d'abord qu'on pourrait à la limite être poursuivi et sanctionné. Deuxièmement, en ce qui concerne la même question de l'emblème, si c'est vraiment des emblèmes qui font confusion avec les emblèmes utilisés par un autre candidat, alors là, on vous appelle, on vous informe et vous avez 3 jours pour proposer de nouveaux insignes et de nouveaux emblèmes. Donc c'est des questions qui ne sont pas pour la validité des candidatures, uniquement pour des questions de procédure. Et là, vraiment, je suis désolé, on aurait dû informer M. Yoronga s'il y a des emblèmes à changer ou il y a une confusion quelconque. À la limite, on laisserait M. Yoronga valider sa candidature et quitte à ce qu'on l'avertisse des dispositions pénales qui peuvent lui être appliquées en cas de persistance pour l'utilisation des emblèmes qui font la confusion.
Ces partisans parlent d'une décision politique.
Tout me semble aller dans le sens parce que franchement, la raison du rejet de la candidature n'a pas de base légale et c'est cela qui est dommage. Elle n'a pas de base légale, c'est pour ça qu'elle peut prêter à toute forme d'interprétation, y compris politique.
Quelle pourrait être l'incidence de cette mise à l'écart de l'opposant historique Ngaleji Yoronga?
D'une manière gratuite, le Conseil constitutionnel vient de consacrer Yoronga comme une victime qui pourrait à la limite faire des risques de perte au candidat ou au pouvoir ou à d'autres candidats. D'une manière fondée ou non fondée, on le consacre comme une victime et on n'en a pas besoin d'ailleurs de le faire. Yoronga a déjà pour la 4e fois en train de se présenter à la candidature de la présidence de la République. Je pense qu'on aurait laissé les élections assez ouvertes, y compris la validation de la candidature de Yoronga, qui lui a fait usage d'un recours administratif gracieux, connaissant bien son droit et la procédure. Mais là également, le Conseil constitutionnel ne s'est pas ressaisi pour repêcher M. Ngaleji Yoronga. Et c'est dommage parce qu'on aurait dû laisser vraiment ouverte la candidature. La candidature de M. Yoronga ne me semble pas une candidature fallacieuse.
Ahmad Mahamat Hassan, constitutionnaliste et professeur de droit à l'université de N'Djamena. Au Congo-Brazzaville, la campagne électorale en vue de la présidentielle du 20 mars est en cours depuis vendredi, mais la plupart des candidats n'ont commencé leurs meetings électoraux que ce week-end. Le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui a toujours des ennuis avec la police, souligne son intention de participer malgré tout au scrutin. Les précisions de notre correspondant à Brazzaville, Nguela Ngusu.
Démarrée dans une timide ambiance, la campagne électorale va entrer dans une phase importante aujourd'hui lundi. Mais déjà, annonçant les couleurs, le général Jean-Marie Michel Mokoko, malgré ses déboires avec la police, a déclaré que le vote aura bel et bien lieu, quelles que soient les conditions d'organisation du scrutin. Sassou Nguesso, le président sortant, a choisi, lui, comme en 2009, la ville de Pointe-Noire pour présenter son nouveau projet de société, la marche vers le développement. Il a promis de créer des emplois pour les jeunes et construire un nouveau barrage hydroélectrique, celui de Sunda, 1000 MW. L'un des rares candidats ayant débuté tambour battant sa campagne électorale, Joseph Kinyumbi Kiambungu, qui revient pour la 3e fois après 2002 et 2009, propose de gouverner autrement. La campagne électorale va se poursuivre jusqu'au 18 mars prochain. Nguela Ngusu, Brazzaville, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Élection présidentielle au Bénin, le décompte des voix continue après un vote dans le calme dimanche pour choisir le successeur du président Thomas Boni Yayi qui se retire après 2 mandats conformément à la Constitution nationale. Les premiers résultats sont attendus dans les 3 jours suivant le scrutin. Le compte-rendu de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur, à Dandé.
Le scrutin s'est bien déroulé, même si les électeurs déplorent par endroits l'absence des représentants des candidats.
J'ai voté dans la transparence, dans la tranquillité, dans la paix, dans la sécurité et sans aucune pression extérieure.
Je viens de voter et c'était bon, tout va bien.
Tout se passe normalement.
Le chef de l'État, Thomas Boni Yayi, a accompli son devoir civique et en a profité pour s'adresser au peuple béninois.
Notre démocratie fait un pas de plus. Et surtout propulsé dans les grandes démocraties de cette planète.
Les regards sont donc tournés vers la commission électorale qui fera une course contre la montre afin d'éviter un vide juridique puisque la Constitution exige que le nouveau président soit investi dans ses fonctions le 6 avril. De Cotonou, Ginette Fleur Adonné pour VOA Afrique.
Fin dimanche de la visite au Mali des représentants des 15 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU, les diplomates ont eu des consultations avec les autorités maliennes, dont le président Ibrahim Boubacar Keïta et aussi avec les groupes armés. Et avant de partir hier, ils ont réitéré l'appel de l'ONU en faveur d'une accélération de la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger. Les points forts de la visite de la délégation du Conseil de sécurité avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Mopti, l'entrée du désert malien ou la Venise a été la première étape de cette visite du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ici, les échanges avec les autorités de la ville et la société civile étaient consacrés à la sécurité. Boukari Koïta, chef de cabinet du gouverneur de Mopti.
Donc ça veut dire que le règlement de la crise malienne intéresse au plus haut point le Conseil de sécurité. Et aujourd'hui, le fait d'être à Mopti va droit au cœur des populations. Soyons aujourd'hui que le Conseil de sécurité veut vraiment ramener la paix et la cohésion dans notre pays.
À cette table d'échange, il y avait le commandant de la région militaire de Mopti, le colonel Daoud Ali Ould Mohamedine.
Je me dis que le Conseil de sécurité s'est déplacé, pouvait rester à New York, mais venir sur le terrain, comme on le dit, voir une fois vaut mieux que d'entendre 1000 fois. Donc en venant nous voir, ça nous rassure et nous savons aussi que nous avons des gens qui sont à notre écoute.
Tombouctou était la deuxième étape de cette visite, une étape qui était sous haute surveillance sécuritaire. Cette visite du Conseil de sécurité des Nations Unies au Mali se tient à la veille du débat pour le renouvellement du mandat de l'AMINUSMA et à la veille de la publication du rapport du secrétaire général des Nations Unies. Cela ne peut pas être un fait du hasard, nous a confié un officiel. Kassim Traoré, de retour de Mopti et Tombouctou, VOA Afrique.
En Tunisie, au moins 35 djihadistes, 10 membres des forces de sécurité et 7 civils tués aujourd'hui à Ben Gardan, localité proche de la frontière avec la Libye. Le bilan est encore provisoire et les frontières entre la Tunisie et la Libye ont été fermées. Maïli Segal.
Ces attaques terroristes ont été perpétrées à l'aube et ont visé une caserne de l'armée, un poste de police et de gendarmerie à Ben Gardan, une localité de 60 000 habitants. Un couvre-feu a été instauré et les patrouilles terrestres et aériennes vont être renforcées le long de la frontière avec la Libye, qui a été fermée pour une durée indéterminée. Ces attaques sont d'une ampleur inédite et interviennent moins d'une semaine après de premières heures armées dans cette même région. 5 extrémistes venus de Libye, dont au moins 4 d'origine tunisienne, avaient été tués par des unités de l'armée alors qu'ils étaient retranchés dans une maison. Le ministère de l'Intérieur avait, de son côté, évoqué la possible entrée sur le sol tunisien de groupes terroristes à la suite d'un raid américain le 19 février contre un camp d'entraînement du groupe État islamique à Sabrata, dans l'ouest libyen, à moins de 100 km de la frontière tunisienne. Un bombardement qui avait fait des dizaines de morts. La Tunisie, qui compte plus de 5000 ressortissants dans les rangs d'organisations djihadistes à l'étranger, exprime régulièrement son inquiétude à propos de la situation en Libye.
Conflit en Syrie maintenant, l'opposition syrienne a accepté de se rendre à Genève pour de nouvelles négociations visant à résoudre ce conflit. La trêve entrée en vigueur il y a 10 jours semble tenir sur le terrain. Idriss Fall.
Les pourparlers intersyriens sont prévus en fin de semaine. La délégation du Haut Comité des négociations, c'est-à-dire l'opposition syrienne soutenue par Riyad, a annoncé son arrivée pour vendredi à Genève. Le régime de Bachar al-Assad n'a pas encore donné de date ni l'identité de ses représentants. Stéphane de Mistura, émissaire de l'ONU, avait fixé jeudi pour le début des discussions indirectes sur un nouveau gouvernement, une nouvelle constitution et des élections dans un délai de 18 mois.
Merci Idriss Fall, voilà c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.